Qu'est-ce que la jeunesse française a à nous dire de notre époque ? À travers notre podcast « Jeunesse plurielle », découvrez des jeunes qui ont été amenés très tôt à s'interroger sur leur identité et leur place dans la société. Une conversation inédite entre des jeunes de divers territoires vivant différentes réalités.
Avec D'ailleurs et d'ici, Point News, le média d'une France plurielle, innovante, engagée.
Dans cette conversation enregistrée à Avignon, 11 jeunes issus pour la plupart de quartiers populaires, aujourd'hui membres du dispositif Classe Départ, s'interrogent sur les forces et faiblesses de notre pluralité. Face au racisme ordinaire et aux discriminations qui perdurent, on perçoit un vrai ras-le-bol, comme une envie de faire ensemble, un désir d'en apprendre davantage sur notre histoire commune en croisant nos cultures et nos arts, dans l'espoir de faire de notre identité plurielle un formidable atout.
Avant tout, pour moi, la France, c'est un pays où il y a beaucoup d'horizons, beaucoup de cultures, beaucoup d'art, du coup.
Pour moi, c'est positif dans le sens où je pense que plus la France est confrontée à d'autres cultures que celle qui est française, de base, et ben, plus elle est ouverte d'esprit et plus elle peut aller loin par exemple dans l'art, dans même la peinture, la musique, tout ça, s'inspirer de d'autres cultures en fait qui au final forment la culture française qui du coup aide vraiment, je pense, à tout le monde dans beaucoup de domaines. Voilà,
c'est une question aussi d'élargir son point de vue et les points de vue. Je trouve que c'est super important et c'est ce qu'on nous apprend aussi en théâtre. C'est-à-dire avoir plusieurs points de vue pour avoir un ressenti bien différent et pouvoir comprendre les points de vue de tout le monde. Je trouve que ça, c'est super important de se mettre dans la peau de tout le monde au final et d'être fier de ce qu'on est soi-même en tant qu'individu et d'avoir certaines cultures à nous. Et voilà. Mais que notre culture aussi en France, c'est une espèce de pluralisme, effectivement. Du coup, et une question de point de vue.
Et effectivement, le pluralisme, le mélange des cultures et l'inclusivité, ça a toujours été une bonne chose. Ça a quand même permis d'avoir énormément de progrès depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait que tout le monde a gagné beaucoup plus de droits et de libertés. Et surtout qu'en France, pas comme aux États-Unis avec les Chinatown par exemple, on a moins de communautarisme, même si c'est en train de venir. Et c'est plutôt le juste milieu entre le pluralisme culturel qu'il faut et le communautarisme qu'il faut parfois essayer de contrebalancer, essayer de définir quelles sont les limites entre l'un et l'autre. Par exemple, si on reprend le cas que j'ai dit de Chinatown, le truc, c'est pas qu'ils restent ensemble, mais c'est qu'ils ont un quartier à eux, des lois à eux, des coutumes à eux, et qu'ils ne s'adaptent pas.
Alors, moi, je suis Chinatown. Déjà, de un, mon ami ici présent, il parle d'un autre pays alors qu'on parle de la France. Déjà, de un. Deuxièmement, le truc de communautarisme. Déjà, c'est pas eux qui ont décidé d'être dans des quartiers. Moi, alors, je le dis car on ne peut pas me voir, mais on peut m'entendre car c'est qu'un podcast. Je suis asiatique et moi, je peux vous le dire. Il y a beaucoup de cosmopolitisme dans ce genre de lieu, si je peux me permettre. Il y a des blancs, des noirs, des chinois, des africains noirs, des arabes, des gitans. Bien sûr, il y a aussi des mauvais exemples, mais il y a aussi des gens bien.
Déjà, pour moi, le besoin d'être avec des gens qui nous ressemblent, c'est un besoin humain pour commencer. Et il y a juste à voir quand il y a des personnes qui voyagent à l'étranger, que ce soit des blancs ou autres, on va toujours chercher, inconsciemment, on va toujours chercher quelqu'un qui nous ressemble pour ne pas se sentir dépaysé. Donc je pense qu'ici en France, avec toute l'histoire qu'il y a avec les communautés maghrébines et noires notamment, je pense que déjà, c'est normal qu'il y ait un besoin de rester ensemble par rapport à toutes les stigmatisations qu'il y a pu avoir et qu'il y a toujours actuellement. Et je pense que c'est, au lieu de pointer du doigt, il faut comprendre d'un point de vue sociologique, enfin comprendre pourquoi il y a tant de problèmes qui se passent dans les quartiers. Et il faut aussi donner la parole aux personnes issues des quartiers, parce que, enfin des quartiers populaires, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est parce qu'en fait on nous entend pas du tout, de plus en plus, mais pas assez, je pense. Ben déjà, alors quand on voyage à l'étranger, on va pas forcément chercher des gens qui ont les mêmes origines, mais qui viennent du même pays que nous. Et quand on est à l'étranger, déjà on se dit tous français, alors que quand on est en France, on se sent pas forcément, on nous présente pas en tant que français, parce qu'il y a certes il y a des personnes qui acceptent pas qu'elles sont françaises, mais il y en a d'autres qui veulent l'être malgré ce qu'elle renvoie physiquement.
Étant d'origine maghrébine, du coup, contrairement à ce que pouvait dire Inès, moi je me sens français, malgré le fait que je viens de quartiers défavorisés, parce que justement j'ai voulu sortir de juste ce quartier et de voir un peu ce qui se trame autour. Et si toutes les personnes, peu importe l'ethnie, peu importe l'origine, qui est dans un quartier défavorisé, reste dans l'idée de ça se passe comme ça, c'est comme ça parce que c'est comme ça ici, et ben en fait personne va avoir envie de leur parler, et ils vont avoir envie de parler à personne d'autre par la suite, et que du coup ça va faire que comme tu dis, quand ils vont aller dans un autre pays ou quoi, ils vont vouloir rester, ou même, enfin tu disais rester avec les gens du coup qui leur ressemblent, entre guillemets.
Alors, ouais, c'est vrai, tu as raison. Par exemple, ceux qui sont dans les quartiers défavorisés, il y en a, c'est sûr, comme tout partout. Il y en a, ils aiment, parce qu'il y a tout dedans, il y a de l'argent à faire, il y a tout, etc. Mais il y en a qui aimeraient aussi aller travailler. Voilà, qui aimeraient sortir travailler. Eh bien, moi, j'ai essayé de travailler. Et le seul travail où j'ai été pris, écoutez bien, c'est livreur de sushis. C'est comme par hasard lire du sushi. Non, mais ça veut dire, Rambert, je suis asiatique. Et le seul travail où j'étais pris, c'est lire du sushi. Mais c'est compliqué, en fait. Et y a, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais arrêtez de prendre cette excuse. Tu vas là-bas, tu vas à l'intérim, si tu cherches bien et tout, tu n'es pas fainéant, tu vas trouver. Mais non, parce que moi, je connais, j'ai la vraie vie, genre, je vois devant mes yeux. Parce que j'ai l'impression à entendre que les gens qui sont des quartiers, genre c'est leur faute qu'ils sont là, en fait. Genre c'est leur faute qu'ils restent dedans. Mais c'est pas leur faute.
Pour moi, si les jeunes ne veulent pas sortir de leur quartier, c'est qu'ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Et à l'heure d'aujourd'hui, en France, il y a énormément d'aides. Moi, personnellement, je pense qu'au niveau de la mission locale, Pôle emploi, tous les suivis qu'il y a, même si on est sorti du circuit scolaire, il y a quand même énormément d'aides, énormément d'accompagnement. Après, dans ce travail-là, c'est toujours 50-50. Donc si le jeune ne veut pas ou se présente juste au rendez-vous d'insertion et qu'il ne donne pas suite à ça, entre guillemets, qu'il retourne dans son quartier, et vous savez comme un enfant qui rentre de l'école et qui jette son sac à dos par terre pour aller jouer au foot en bas, c'est sûr qu'il n'y aura pas de suite à ça. Après, la volonté, elle y est dans chaque être, hein, chaque personne issue de quartier défavorisé. Mais pour moi, il n'y a pas de racine au niveau des accompagnements.
En fait, c'est vraiment genre psychologique et sociologique, je pense. C'est d'abord déjà un besoin d'appartenance, parce que des gens se sentent différents, déjà par rapport au fait qu'on soit tous regroupés entre minorités, déjà, pour commencer. Ouais, déjà, je pense que c'est un besoin d'appartenance, parce que on n'a pas tant de visibilité que ça, et aussi le fait d'être reclus avec nos cultures à tous. En fait, je pense qu'on est enfermé dans des schémas culturels et etc. Ça peut être aussi perçu comme une honte d'aller en dehors de ça par rapport à notre entourage à nous. Moi, je sais que j'aime, par exemple, moi j'aime beaucoup écrire, et ça je le dis vraiment à personne, parce que ça peut être perçu comme, enfin on l'a déjà dit, que c'était étrange, justement, alors que, enfin voilà, c'est pas le cas. Pour rebondir par rapport à la discrimination à l'embauche, moi je suis totalement d'accord avec toi, Jonathan, parce que j'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine social, et les seuls emplois où j'ai pu être acceptée, c'était tout ce qui était ménage, restauration rapide et pas plus. Alors que là, il n'y a pas longtemps, j'ai passé un entretien et au contraire, on m'a dit que genre, vraiment mon CV il était super riche et par rapport à mes expériences aussi. Et pourtant, au final, moi, je ne suis jamais acceptée dans un emploi qui peut être agréable, on va dire. Parce que moi, je suis voilée et j'aimerais devenir éducatrice spécialisée, sachant qu'en association, on peut travailler avec le voile et ça peut être une discrimination de refuser quelqu'un par rapport à sa tenue vestimentaire. Et du coup, il y a plusieurs associations qui m'ont dit directement qu'ils n'acceptaient pas des personnes qui portent le voile.
Et du coup, en France, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une interdiction des abayas. Du coup, comment envisages-tu, est-ce que tu appréhendes le fait de porter des vêtements légiférés, ou est-ce que tu envisages du coup de te tourner vers un domaine qui n'interdit pas cette tenue vestimentaire?
Déjà, moi, je ne suis pas concernée par la abaya, pour commencer, parce que je suis plus au lycée. Pour commencer, et c'est pas une tenue que je porte habituellement. Après, la hebaya, c'est pas quelque chose qui est forcément religieux, c'est plus culturel, parce que ça vient des pays du Moyen-Orient. On peut s'habiller on peut s'habiller de la façon qu'on veut, et
pour moi c'est politique, c'est pas la priorité en France, et c'est plus politique dans les magasins qui sont très connus. Par exemple à Zara, H&M ou notamment la marque Guess, il y a des vêtements qu'on appelle ça des kimonos et qui ressemblent énormément à des abayas. Donc du coup c'est contradictoire. On nous vend ça, c'est des magasins la plupart français.
Moi il faut savoir que pour ça en fait je pense que c'est plus en fait une sorte d'erreurs en fait au niveau du gouvernement qui a tendance en fait justement à mélanger culture et religion, parce que dans le cas en fait que tu as dit en fait dans le cas du kimono, le kimono c'est plus une tenue en fait que portent en fait donc souvent les Japonais ou les Chinois lorsqu'ils font en fait des arts martiaux. C'est plus donc pour le sport qu'ils font ça et pas vraiment pour leur religion. Et dans le cadre en fait donc d'un voile, les gens l'associent immédiatement parce que c'est populaire en fait à la culture musulmane, ce qui n'est pas vrai pour le coup, mais il l'associe immédiatement à ça. Et parce qu'en fait, du côté chrétien, on a aussi en fait le coup le voile chrétien qui est, lui, religieux. Donc pour nous, je dis ça, je ne suis pas vraiment chrétien, mais pour les personnes chrétiennes, c'est plus religieux parce qu'ils associent ça directement à la religion, eux, les chrétiens. Donc c'est pour ça que pour eux, c'est directement basé sur la religion. Et donc du coup, c'est donc une faute du gouvernement qui fait l'erreur en fait de mélanger les deux.
Pour revenir au abaya, c'est vrai que déjà c'est vrai que comme elle a dit Inès, c'est pas un vêtement religieux, mais il y a des gens, moi je vois à l'école quand j'allais à l'école, je voyais des gens qui prenaient des t-shirts genre avec des croix dessus. C'est pareil, alors ça veut dire que c'est un signe ostentatoire s'ils portent des t-shirts avec des croix dessus. Pourquoi alors on n'interdit pas ça aussi alors?
Pour commencer, je pense qu'il y a un vrai travail de nos politiques à faire, y compris dans les médias. Il faut qu'ils arrêtent un peu de surmédiatiser la moindre chose qui va nous faire nous diviser, forcément. Déjà, je pense que ça peut être un bon point, et plutôt qu'ils fassent en sorte qu'on s'entende bien, plutôt qu'il y ait deux communautés. Déjà, si on parle de deux communautés, ça veut dire que déjà, il y a une volonté de diviser. Ensuite, je pense qu'on doit aller dans les quartiers les plus populaires où justement il y a le plus de discrimination et leur rappeler qu'ils peuvent s'en sortir autrement, qu'on doit leur laisser de la place, dans les écoles, on doit leur laisser de la place. À partir du moment où leur comportement est exemplaire dans les plus grandes universités, dans les plus grands centres de formation, on doit leur laisser une chance. Et à partir de là, déjà, je pense qu'il y a énormément de tensions qui s'estomperont de par eux-mêmes, en fait. Dans les médias, à chaque fois, quand ils parlent de délinquance, c'est toujours les mêmes quartiers, c'est toujours les mêmes cibles de personnes, alors que dans le fond, ce qu'ils ne disent pas, c'est que les personnes de même ethnie que ces délinquants, ils n'en peuvent plus aussi de cette délinquance. Parce que je pense qu'en France, on est tous de couleurs différentes, mais on a tous le même objectif, c'est d'être heureux dans la vie. Et on devrait pouvoir le permettre à tout le monde.
Je rejoins Alex. Ben déjà, c'est essayer de nous pointer du doigt et de nous séparer. Parce qu'en fait, on nous sépare indirectement.
Mais moi, je pense déjà qu'il faut commencer, que ce soit à n'importe quel niveau, il faut commencer par dissocier le comportement de... Ben déjà, même que ce soit le sexe ou que ce soit l'origine, il faut dissocier les deux. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Et même si on le répète à chaque fois, ça, on ne l'écoute pas forcément. Favoriser la mixité dès l'enfance. Parce que déjà, quand on voit les écoles sectorisées, qu'on soit tous mis par secteur, au final, on est tous par quartier ensemble. Ben, moi, par exemple, quand j'étais en primaire, c'est une école de quartier. Donc, on était tous entre, on va dire, minorités.
Je rejoins tout le monde, genre, faut faire la différence entre, en mode, faut pas toujours tous les problèmes, quand il y a des problèmes, les relier aux origines, en fait. Parce que c'est pas ça, c'est l'être humain, c'est la personne, en fait, c'est tout. Et du coup, ben, ça, déjà, ça aiderait beaucoup à être plus, je pense que tout le monde s'entendrait mieux. Dès qu'il y a un problème à la télé, par exemple, avec quelqu'un qui est blanc, personne ne va en faire une affaire d'État. Alors que dès que ça touche toutes les autres origines, notamment la communauté maghrébine, si je peux me permettre, là, on est direct dans une sauce et on généralise tout le monde, en fait. On met tout le monde dans le même sac, ouais, c'est tous les mêmes. Alors que non. Non, même nous, quand on voit moi, personnellement, quand je vois des trucs que ma communauté fait des fois, je suis écœurée. Enfin, voilà. Et pourtant, je ne suis pas comme ça. Donc... éviter de faire une généralité et puis ne pas s'intéresser à l'origine et la religion aussi, surtout.
Ce qui est primordial même, c'est de donner l'accès de plus en plus tôt aux jeunes à l'art. Je viens de base de quartier populaire, j'ai eu très tôt accès à ça. Je trouve que l'art, c'est primordial pour comprendre aussi le monde qui nous entoure. On n'est jamais trop petit, en vrai, pour comprendre, en fait, ou peut-être qu'on comprendra plus tard, mais on aura eu déjà une réception. Donner aussi, pas cours de philo, mais des débats, de plus en plus jeunes aussi, débattre, mettre en confrontation les gens sur les idées, les faire évoluer. Un humain, c'est en constante évolution, que ce soit par la pensée, même par le physique, du coup. Et je trouve que c'est très important de revenir aussi à la source, parce que voilà, moi je crois en l'art et la culture, je maintiens, c'est hyper important. C'est une des solutions pour moi qui peut nous amener vers le positif et la bienveillance.
Moi, je pense, déjà, pour revenir à ce qu'elle a dit, ma collègue Alia, c'est que, déjà, la raison, il ne faut pas confondre origine et religion, de un, parce que les gens, ils aiment trop, les médias, ils aiment trop discriminer une religion par rapport à l'origine du monsieur ou de la madame qui a fait une bêtise. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution. Moi, je pense que la seule solution, c'est de s'écouter. Dans tous les cas, on ne pourra jamais être dans un beau monde, jamais de la vie, parce qu'on est tous différents et chacun a ses propres pensées, chacun a ses propres points de vue. Même regardez, à peine on débat là, on a tous pas le même point de vue et on n'arrive toujours presque pas à s'entendre exactement, à s'entendre et tout. Alors imaginez, pour 60 millions de personnes, il faut avoir des solutions, il faut les trouver, il faut essayer de les appliquer, mais je pense que il n'y en a pas. C'est juste le truc, c'est de s'écouter, c'est d'apprendre.
En fait, il faudrait faire voir la France comme elle est vraiment, et pas que par les médias, à tout le monde, en fait. Que ce soit dans les quartiers défavorisés, populaires, dans les grandes villes, de partout. Et leur montrer, en fait, comme un peu le but de ce podcast, un peu sur les jeunes, un peu montrer que on a quand même de la suite dans les idées et qu'on n'est pas juste... à rien faire, à des flemmards qui cherchent pas de travail, tout ça. On essaie de s'en sortir et comme tout le reste de la France, on est français en fait. Et je pense qu'il faut leur montrer ça
Moi, du coup, pour te rejoindre, Hamza, nous, moi, je parle en tant que maghrébine et habitante de quartier populaire, du coup. On est beaucoup à vouloir être accepté tel qu'on est avec nos cultures, etc. Mais pour certains, on ne fait pas l'effort d'accepter les autres aussi tels qu'ils sont. Et je pense que le respect doit être mutuel et l'acceptation aussi, du coup.
Une production d'ailleurs et d'ici.news en partenariat avec Friction Média.
Je navigue entre deux terres sans jamais m'enraciner. C'est étrange comme nous tanguons sur la terre ferme, ici, ensemble, comme des marins naufragés. C'est étrange comme l'on ne se suit que lorsque le soleil est couché et nos bouches taries par l'obscurité ne sortent plus que des mots, pansements.